Chers frères et sœurs, la toute première parole de Marie que nous rencontrons dans l'Écriture, il n'y en a pas beaucoup, c'est une question. Et cela peut déjà un peu nous surprendre. Nous aurions peut-être attendu qu'elle dise immédiatement oui, n'est-ce pas ?
Oui, d'accord, j'y vais.
Non, elle se pose une question. Comment cela va-t-il se faire ? Alors, est-ce que Marie ne serait pas si pieuse que nous l'imaginons ? Non, je ne pense pas, parce que la vraie piété n'évite pas les questions. Et les questions sont tellement importantes pour accroître et agrandir notre foi. Le pourquoi du comment. Ah oui. Je me souviens d'une petite fille qui est devenue maintenant très grande, puisqu'elle est mère de 4 enfants. C'était ma nièce, pour ne pas la nommer. Quand elle était petite, qu'elle avait 5, 6, 7 ans, on l'appelait Mademoiselle Pourquoi. Parce que chaque fois, c'était pourquoi, 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 pourquoi. Pourquoi ou bien comment. Oui. Ce n'est pas de l'enfantillage, et vous le savez bien, vous qui avez eu des enfants. L'esprit s'éveille à un moment donné et veut savoir. Et ce savoir n'est pas extérieur à notre personne. Au contraire, c'est un savoir qui va intégrer profondément notre vie et qui va grandir avec nous. Et pour la foi, c'est la même chose, n'est-ce pas ? On a cette belle expression, et peut-être certains ou certains d'entre vous y participent dans la pastorale de l'Église d'aujourd'hui, qu'on appelle l'éveil à la foi. L'éveil à la foi. Il y a sans doute parmi vous beaucoup de grands-mamans ou de grands-papas qui doivent répondre parfois à des questions très embarrassantes. Oui, parce qu'on ne connaît pas la réponse immédiate, mais des réponses très profondes, très pures, très directes de vos petits-enfants. Oui, pourquoi ? Où irons-nous après la mort ? Le ciel, c'est où ? Tu dis que j'ai Dieu dans mon cœur, mais je ne vois rien. Des questions fondamentales. Et ce n'est pas du tout de l'enfantillage. Et Marie pose cette question, comment cela va-t-il se faire ? Mais attention, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas un rejet de sa part, ce n'est pas un doute de sa part, bien au contraire. Dans l'évangile de Luc, on nous raconte en parallèle deux attitudes très différentes. Il y a l'attitude de Marie, et puis il y a l'attitude du père de Jean-Baptiste, n'est-ce pas, de Zacharie, qui lui aussi se pose une question et qui est puni justement pour la question qui se pose. Marie n'est pas du tout punie, mais la question est bien différente. L'attitude de Zacharie par rapport à l'ange qui lui annonce la naissance d'un fils est bien différente de celle de la Vierge Marie. J'allais dire, excusez-moi, c'est l'attitude d'un vieux qui a déjà vu beaucoup de choses dans sa vie. Quelqu'un à qui on ne l'a fait plus, comme on dit vulgairement. Oui, et qui marchande avec Dieu. D'accord, tu me dis que j'aurai un fils. Bien, 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 mais tu m'as regardé. Bon, alors qu'est-ce que tu me donnes pour que je puisse y croire ? Il veut un signe. Il veut quelque chose qui l'amène finalement. Finalement, sa foi est un marchandage. Pour Marie, il ne s'agit pas de marchandage. Elle l'accepte, mais son acceptation, son oui, il faut qu'il corresponde avec ce qu'elle est profondément, avec ce qu'elle est tout entière, avec sa vie, avec son mariage qu'elle a commencé avec Joseph. Il faut que ce oui ne soit pas un oui farfelu, mais un oui qui intègre profondément sa personnalité. Un oui, comme on disait tout à l'heure, qui soit discerné, et discerné dans la force de l'esprit. Et cela va lui prendre du temps. Évidemment, l'évangile est très court parce que, au terme de cette lecture, et on va le dire demain, la réponse est « Je suis la servante du Seigneur ». Mais entre la question et « Je suis la servante du Seigneur », il me semble qu'il y a tout un temps. C'est le temps de l'éveil à la foi. Et parfois, vous le savez bien que ce temps-là peut correspondre pour nous à toute notre vie. On n'a jamais fini de trouver la réponse à cette question fondamentale. Et c'est là où je veux en venir maintenant. Marie pose une question quand on lui propose une mission extraordinaire, c'est normal. Mais combien de fois ça nous est arrivé à nous aussi, à qui on a proposé des missions ou des responsabilités importantes, ce devoir de réfléchir, comme on le disait hier dans l'Évangile, ce devoir de s'asseoir, et où on se demande si on a vraiment les possibilités d'aller jusqu'au bout de notre oui. Chaque fois que je célèbre un mariage, moi j'y pense. Oui, c'est deux. Oui, 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 pour la vie. J'ai envie de leur dire, je ne leur dis pas. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Oui, si je leur disais cela, ils s'étonneraient vraiment. Mais parfois, quand on les revoit quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, ah, si on avait réfléchi. C'est pas seulement une question de réflexion. Je peux le dire aussi pour moi-même par rapport à mon engagement religieux, comme un prêtre peut le faire par rapport à son engagement religieux. Pour mon compte, il y aura 50 ans cette année que j'ai dit mon oui. Eh bien, je crois que j'ai pas fini de trouver la réponse à cette question. Il faut que le oui s'intègre encore chaque jour dans ma vie, comme le oui de personnes mariées doit s'intégrer chaque jour dans leur vie. Chaque matin, il faut dire oui. Et Marie connaît le prix de ce oui, puisqu'elle a posé justement cette question fondamentale. Il y a une autre conclusion, si vous voulez, que je tire de cet évangile et qui me paraît très importante aussi. La foi chrétienne, et j'allais dire d'une certaine manière la foi catholique aussi, n'est pas la foi du charbonnier. Vous savez ce que c'est que la foi du charbonnier? On pose la question à quelqu'un, « Qu'est-ce que tu crois ?» Il répond, « Je crois tout ce que la Sainte Église catholique m'enseigne. » Très bien. « Et qu'est-ce que l'Église catholique t'enseigne ?» Eh bien, tout ce que je crois. D'accord. Ah, ça c'est une foi bien chevillée, n'est-ce pas? Mais ça ne va pas très loin. C'est une foi très extérieure qui n'a pas évangélisé nos profondeurs, ni même notre cœur, et surtout pas notre esprit, surtout pas notre intelligence. C'est une foi qui démissionne d'une certaine manière, puisqu'elle se remet à quelqu'un d'autre. Je crois comme celui-là. Alors, ne me demande pas ce que je crois, mais je crois parce que celui-là croit comme cela. Mais c'est une foi qui n'est plus personnelle. Tandis que la foi de Marie, c'est une foi très personnelle, à cause justement de cette question. Il faut que cette foi rentre profondément dans son cœur. Et j'insiste là-dessus parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de le dire. Trop souvent, pas seulement dans les médias, mais d'une façon un peu générale, tu es catholique toi? Oui, je suis catholique. Oh, ben je te plains, tu sais. Comment tu peux croire à des histoires pareilles? Ah oui. Et toi, tu crois à l'horoscope? Oh, ben oui, d'accord. Enfin, bon. Eh bien, nous n'avons pas le droit de recevoir la plainte des autres si nous avons intériorisé notre foi, si nous avons éclairé notre foi à partir de notre raison, d'une certaine manière. J'aime bien notre pape actuel, justement, Benoît XVI, parce qu'il insiste beaucoup là-dessus, beaucoup là-dessus. La foi, c'est pas un cri. La foi, c'est pas simplement chanter Alléluia, etc., etc. Non. La foi, c'est faire passer la parole de Dieu, dans tout ce que nous sommes, dans notre cœur, bien sûr, mais aussi dans notre esprit. Ne mettons pas notre intelligence entre parenthèses. Surtout pas notre cœur, bien sûr, mais ne mettons pas notre intelligence entre parenthèses. Si Dieu est parole, c'est parce qu'il veut s'adresser à des êtres intelligents. Des êtres intelligents, c'est-à-dire des êtres qui sont capables d'écouter une parole, de la comprendre et de la faire passer dans leur cœur. C'est pour ça que cette lecture, avec cette question, m'invite à invoquer la Vierge d'une façon particulière. Elle a beaucoup de titres, n'est-ce pas ? La Vierge Marie, la litanie de la Sainte Vierge nous en énumère une cinquantaine, que sais-je. Mais il y a un titre parmi tant d'autres que j'aimerais relever aujourd'hui. On l'appelle la mère de la sagesse. La mère de la sagesse. Le sage, c'est celui qui ne va pas tête baissée comme ceci ou comme cela. Mais le sage, c'est celui qui a reçu la parole dans son esprit et dans son cœur et qui l'a fait descendre dans toute sa personne. Et nous le savons que la Vierge Marie, il y a de beaux passages dans l'Évangile qui évoquent cela. On nous disait qu'elle ruminait la parole dans son cœur. Elle la ruminait. On dit, d'une façon très polie, elle la méditait. Mais si on veut traduire exactement, elle la ruminait dans son cœur. Elle faisait repartir toutes ces paroles qu'elle avait entendues, d'abord de la Bible, de l'Ancien Testament, et puis des paroles de son Fils, continuellement, toute sa vie, d'une certaine manière, cette parole était dans son cœur, était dans son esprit, et je pense à cette parole qui l'a fait vivre et qui l'a fait aller jusqu'au bout, finalement, de sa vie. Alors invoquons-la aujourd'hui, et qu'elle nous indique à chacun et chacune d'entre vous la meilleure méthode, justement, pour méditer la parole de Dieu, cette parole qui fait de nous des êtres vraiment humains, des êtres responsables, mais aussi des fervents chrétiens et des êtres qui peuvent trouver le bonheur déjà sur cette terre et bien sûr au terme de leur vie.